Willkommen bei einem neuen Episode von Be Well, dem gesunden Podcast zu Lützebusch. Allmond ein neues Thema mit einem neuen Invité, mit dem ich probiere ein bisschen zu belichten, wie ich mich gesund, mich equilibriert oder am Endeffekt doch mich glücklich leben. Ich bin Sarah Catani, ich bin Journalistin, mir auch Yoga-Prover probieren an meinem Alter immer neue Aussätze zu finden, für mich bewusst zu leben. An Haut machen wir einen Ausflug bei einem Thema, was in unserer heutigen Zeit omnipräsent ist, nämlich Allergien. Ob Pollen, ob Lebensmittel, ob Fell von Tieren, ob Milben. Es gibt eine helle Wohl Sachen, ob die Erwachsenen aber auch keine allergisch reagieren, an die Klänge, wo können sie ganz große Auswirkungen auf den Alltag haben. Aber wegen nie geht das überhaupt? Was ist eine Allergie? Wieso hat ihn da? Welche Symptome können auf der Allergie zurückfeiern? Und was kann ihn da gehen machen? Darüber schwätzen wir heute mit der Dr. Fanny Morel. Bonjour.
Bonjour.
Donc, Fanny, vous êtes médecin allergologue adulte et pédiatre au CHL et à la Cana Clinique depuis 2007.
Oui, voilà. Tout à fait.
Et votre activité principale, c'est donc la prise en charge des allergies chez les enfants, en particulier donc les allergies alimentaires. Bon, on va parler un peu de toutes les allergies aujourd'hui. Et dans votre parcours, vous avez aussi touché bien sûr à l'immunologie et avez publié dans des revues scientifiques sur les thèmes des allergies. C'est ce que j'ai trouvé un peu sur vous, voilà. Fanny Morel, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'est une allergie? Donc c'est quelque chose qui est dans les bouches, les gens l'utilisent souvent, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Qu'est-ce qu'est une allergie?
Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'allergie a vraiment une définition tout à fait stricte. Et l'allergie est une réaction excessive et anormale du corps à une substance étrangère qui normalement devrait être bien tolérée, et ce qui n'est pas le cas. Et donc, quand nos patients ont des allergies, ils ont des tendances anormales à développer des allergies. Et ces allergies, avec le temps, peuvent évoluer et s'aggraver.
Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est allergique?
Alors, quand on est allergique, on a des symptômes. Et donc, on peut avoir des symptômes d'allergie respiratoire, les classiques rhumes des foies, on a le nez qui coule, on éternue, on a les yeux qui grattent et qui sont rouges. On peut avoir des problèmes d'asthme, donc de respiration. Et puis, bien sûr, de plus en plus, en particulier chez les enfants, des réactions allergiques alimentaires ou après l'ingestion d'un aliment allergène, on va rapidement développer des réactions cutanées, des vomissements, des problèmes respiratoires et éventuellement qui vont pouvoir nous conduire aux urgences ou en service de réanimation. Donc ce sont vraiment les symptômes les plus fréquents. Puis chez les tout-petits, on va pouvoir aussi avoir ce qu'on appelait avant les neurodermites ou les eczémas aigus et chroniques du nourrisson, qu'on appelle maintenant plutôt des dermatites atopiques, qui sont des atteintes diffuses de la peau chez les tout-petits.
Mmh. Donc ça peut avoir des conséquences quand même très sérieuses.
Oui, parce qu'on a également, notamment chez les tout-petits, associé parfois à ces dermatites atopiques des problèmes de prise de poids avec des enfants qui sont très très maigres et qui ne prennent pas de poids à cause d'une allergie alimentaire.
Et comment est-ce qu'on trouve alors cette allergie alimentaire? Donc là, vous avez donc peut-être un nourrisson ou même un enfant. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites?
Alors le premier temps pour nous allergologues, et c'est vraiment le temps principal qu'on va passer avec les gens, c'est... essayer de voir si les symptômes décrits par les patients sont compatibles avec une allergie alimentaire et vont nous orienter vers des tests cutanés. Donc on réalise des tests sur la peau. Mm-hmm. On a plusieurs types de tests, mais le test le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le prick test, mm-hmm. ou alors on va poser soit des extraits, soit des aliments sur le dos ou le bras du patient. On va faire une petite piqûre très superficielle et regarder s'il y a une réaction locale qui apparaît dans les 10 minutes. Mais toujours, ce bilan, il est orienté sur une clinique initiale. C'est-à-dire, on ne fait pas des tests pour voir, on fait vraiment des tests orientés pour essayer de confirmer l'impression qu'on a au départ à l'interrogatoire de nos patients.
Voilà, c'est un peu comme une enquête.
Voilà, c'est un petit peu une enquête. Et comme toute enquête, si on ne pose pas de questions, ben, on ne sait pas s'orienter. Et quand on sait s'orienter, ben, généralement, on tombe sur les bons responsables.
Mmh. J'imagine que c'est un peu les choses génériques auxquelles les gens peuvent être allergiques, les enfants. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas de résultat sur ce test-là?
Alors, nous, à l'hôpital, on fait beaucoup de diagnostics d'allergies alimentaires et donc c'est très drôle parce qu'on a des frigos entiers d'aliments où là, on a en fait, allez, qu'est-ce que je dirais, une centaine d'aliments qu'on connaît comme étant allergènes, qui sont préparés par une technicienne, c'est-à-dire des aliments natifs qui sont crus, qui sont cuits et pour lesquels on va pouvoir faire des tests pour confirmer une allergie, et puis tester les allergies associées éventuelles. Donc on a, si vous voulez, finalement une liste d'aliments qui donnent des allergies et qu'on va pouvoir tester.
D'accord, mais vous faites tout de suite les 100
Non, bien sûr que non. C'est-à-dire qu'on a des familles d'allergènes et on va tester ces familles d'allergènes pour essayer de confirmer l'impression qu'on a au départ. Mais bien sûr, on ne fait pas tous ces tests-là.
Une allergie que je connais qui est quand même... les noix.
Les fruits à coque.
Les fruits à coque, c'est ça que ça se dit en français.
Oui, parce qu'en français, les noix, c'est les, les valnus.
Oui, voilà. Donc, les fruits à coque. Ouais. Et ça peut être vraiment très dangereux aussi si l'enfant est donc exposé à des fruits à coque.
Alors, l'allergie à l'arachide et aux fruits à coque est vraiment en explosion dans nos sociétés industrialisé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Ça a commencé par la cacahuète. Maintenant, on voit de plus en plus d'allergies à la noix de cajou, à la pistache, à la noix ou à la noisette. Et ça pose un vrai problème dans le quotidien des enfants et aussi des adultes, puisque ce sont souvent des allergies très sévères, parfois mortelles, dont les gens ne se débarrassent pas. C'est-à-dire les chances de guérison naturelle sont très très rares, mais heureusement, on a maintenant des petites solutions à apporter à nos patients. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce que des fruits à coque, on ne se rend pas compte, mais il y en a dans tout un tas d'aliments industriels. Il y a tous les problèmes de contamination, c'est-à-dire si vous êtes allergique à la noisette et qu'on vous donne un petit gâteau et dans lequel il est tombé un morceau de noisette parce que le gâteau d'à côté était avec de la noisette, vous allez faire une réaction allergique. Donc le quotidien des gens qui ont des allergies à l'arachide et aux fruits à coque est très compliqué.
Vous dites vous avez des petites astuces.
C'est-à-dire que ce sont des allergies qui guérissent naturellement dans moins de 15 à 20% des cas. C'est-à-dire qu'un enfant diagnostiqué à 4 ans ou 3 ans, mais il mourra très probablement avec son allergie à l'arachide et aux fruits à coque si on ne fait rien quand il aura 80 ou 90 ans. Mais maintenant, on développe de plus en plus, et surtout en Europe, des protocoles d'immunothérapie orale. C'est ce qu'on appelait avant les désensibilisations, qui n'est plus trop le terme qu'on utilise, mais bon, peu importe. Et en fait, les parents et les enfants, ou les patients allergiques vont réintroduire, jour après jour, des petites quantités progressivement croissantes de l'aliment auquel ils sont allergiques, jusqu'à obtenir une tolérance durable. Alors c'est très contraignant, il peut y avoir des réactions allergiques, mais on a des résultats qui sont tout simplement formidables et qui permettent de guérir des allergies qui ne guériraient pas naturellement. Okay. Et c'est pour ces patients-là qu'on se bat d'ailleurs. Voilà.
Donc c'est des types d'allergies où ça peut fonctionner.
Oui, alors ça peut marcher pour tout type d'aliments. C'est-à-dire on le fait très couramment pour le lait, pour l'œuf et pour le gluten, parce qu'il y a des enfants... Il y en a beaucoup qui guérissent naturellement, mais il y en a toujours qui ne guériront pas parce qu'ils ont des allergies trop graves. Et ceux-là, avec ces protocoles, on arrive à les guérir. Et on en fait maintenant de plus en plus pour l'arachide et les fruits à coque. Et on est malheureusement trop peu à le faire. Et il y a une demande énorme et malheureusement, on n'est pas capable de répondre à la demande.
Oui, parce qu'une fois qu'on a trouvé que son allergène, on veut faire quelque chose, soit l'éradier complètement de sa vie, mais c'est compliqué, ou alors, justement, essayer de l'introduire.
Mais le problème, c'est que ça nous demande beaucoup, beaucoup d'investissement en tant que clinicien, parce qu'on se doit d'être là si les gens ont des questions, des problèmes, les protocoles sont contraignants, il faut parfois adapter les doses. Et donc, ça nécessite une présence un peu continue du praticien, mais qui fait que, on ne peut pas prendre en charge tous les patients qui seraient éligibles à ce genre de protocole, malheureusement.
Mais vous disiez aussi dans notre société, qu'il y a par exemple des arachides ou des fruits à coque dans plein d'aliments où on ne se rend pas compte, ou alors qu'ils étaient à côté de quelque chose en contact. Est-ce que ça a un grand rôle? Est-ce que notre façon de consommer a un grand rôle au niveau des allergies?
Alors, déjà, les maladies allergiques sont des maladies des sociétés occidentales.
Voilà, ouais.
Ça, c'est clair et net. On ne voit pas tellement d'allergies dans les pays en voie de développement, ou alors c'est qu'ils ont d'autres considérations, mais véritablement, c'est une maladie des sociétés comme les nôtres. Pourquoi ? Ben, déjà, pour des raisons toutes simples. Ça commence par le mode d'accouchement. Les césariennes sont connues pour favoriser le développement des allergies parce que l'enfant ne passe pas la filière génitale et donc ne va pas pouvoir avoir son tube digestif ensemencé par les sécrétions vaginales de la maman qui vont lui permettre de se réorienter sur un profil non allergique. Si on veut schématiser un peu les choses, pour que la tolérance mère-enfant se fasse pendant la grossesse, un bébé va naître avec un profil allergique. Et tout un tas de choses dans son environnement vont le réorienter ou pas, le maintenir même, dans ce statut allergique ou pas. Ça commence par la césarienne, ça continue par le fait que nous ne sommes plus exposés aux animaux. Et les animaux vont nous exposer à des endotoxines qui vont nous réorienter sur un profil non allergique. Ça passe par les traitements antibiotiques quasiment systématiques. Et donc, si on veut schématiser, ce mode de vie occidental un petit peu aseptisé fait qu'on va favoriser les allergies. On a fait également, en tant qu'allergologue, des grosses erreurs pendant des années en introduisant très tardivement les aliments. On disait, un enfant allergique, on va introduire beaucoup plus tard l'œuf, le lait, le blé, et puis les fruits à coque, ce ne sera pas avant 5 ans.
Oui, oui.
Eh bien, on a créé des générations d'allergiques parce qu'on a introduit trop tard, à tel point que maintenant, on fait également beaucoup de prévention dans les allergies alimentaires. Et donc, nos bébés, nos nouveau-nés à risque atopique, parce que dans la famille proche, les parents, les frères et sœurs, il y a des allergies, eh bien, ils vont consommer de la cacahuète à partir de 4 mois.
Ah oui.
Et on
ah
a une prévention des allergies maintenant sur les fruits à coque, en particulier, qui est très, très, très efficace. Donc, voilà, on a beaucoup appris de nos erreurs et maintenant, on sait faire de la prévention.
Oui, donc c'est un mode de vie, on va dire, c'est ce que vous disiez, un peu plus aseptisé aussi. Et moi, je me rappelle, on disait toujours, laisse les enfants jouer dans la boue, on va dire, dans partout, voilà. Comme ça, ils ont un bon système immunitaire, donc ça va de pair.
Oui, oui, et puis il y a des études qui sont assez rigolotes, mais par exemple, on sait que les aînés sont plus allergiques que les autres enfants dans la fratrie, parce que l'aîné, on le couve, c'est le premier bébé, on fait très très attention, et puis quand on en est à son troisième ou quatrième enfant, on n'a plus le temps,
et donc on
les laisse un petit peu... Donc oui, ce mode de vie aseptisé, il n'est pas bon. Mais par contre, attention, il faut bien faire attention. Quand un enfant est allergique, il est plus question d'aller l'exposer aux animaux, d'aller le faire vivre dans la ferme. On parle bien de prévention. Donc une fois qu'il est allergique, c'est trop tard.
Est-ce que parfois on ne trouve pas la source des allergies, de l'allergie en question ?
Alors, c'est assez rare, mais il arrive parfois qu'on soit confronté à ce qu'on appelle des anaphylaxies idiopathiques, c'est-à-dire que le patient fait une véritable réaction allergique grave. On sait que c'est une réaction allergique, mais on n'arrive pas à trouver l'allergène responsable. Alors, je peux vous citer un exemple, parce que c'est quelque chose de très rigolo. On a découvert, il y a quelques années, c'est tout récent, la cause de certaines anaphylaxies nocturnes. C'est-à-dire qu'on avait des patients qui faisaient des réactions allergiques très graves en plein milieu de nuit, c'est-à-dire bien après des ingestions alimentaires, et on ne savait pas comment identifier, on ne savait pas ce que c'était. Eh bien, on sait maintenant que ce sont des patients qui ont développé des anaphylaxies aux viandes de mammifères, et ce sont des patients qui se sont sensibilisés à ces viandes en ayant été mordus par des tiques qui sont infestées par cet allergène qui est un sucre et qui va déclencher l'allergie. Et la particularité de cette allergie, c'est que l'allergène est un petit peu particulier et tous les tests cutanés qu'on pouvait faire aux viandes étaient négatifs. Donc voilà, c'est-à-dire au fur et à mesure, et ça c'est ce qui est très, très intéressant dans l'allergologie parce que ça reste une discipline relativement récente, donc on a encore plein de choses à découvrir, c'est qu'on a découvert des nouvelles maladies qui ont des nouveaux allergènes qui ont pu nous permettre d'expliquer ce qu'on appelle certaines anaphylaxies idiopathiques, c'est-à-dire idiopathique, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas trouvé. Ouais. Alors, on peut ne pas avoir trouvé parce qu'on a mal cherché, mais on peut aussi ne pas avoir trouvé parce qu'on a des allergènes un petit peu particuliers qui mettent en défaut nos tests.
Waouh, ok, dans ce cas-là, c'est voilà. Il faut aller chercher loin, ouais, effectivement.
C'est ça, mais par contre, quand on a l'explication, c'est très intéressant. Et par exemple, sur l'allergie aux viandes, on collabore avec le LIH, il y a une très très belle équipe d'allergologie avec laquelle on fait des études cliniques. Et ce sont des référents sur les allergies aux alphagales. Et donc, l'allergie aux viandes.
L'allergie à la viande, j'ai pas entendu non plus encore. Ça doit être, c'est des nouvelles choses qui viennent.
C'est ça. Et donc, les patients ne consomment plus de viande de mammifère. Ouais. Et ne font plus d'anaphylaxie.
Ouais. C'est aussi bien pour la planète, ça.
C'est vrai.
Donc là, on a parlé des pollens un peu, on a parlé des aliments. Mais qu'en est-il des allergies, par exemple, à des substances chimiques? Par exemple, à des lessives, des choses comme ça. Est-ce que ça aussi, c'est des allergies ou qu'est-ce que c'est? Des réactions allergiques?
Alors, c'est un petit peu plus délicat. Les allergies aux substances chimiques... Alors, on est surtout allergique, étonnamment, à ce qui se trouve dans la nature.
Oui, c'est d'accord. C'est intéressant,
ouais. C'est-à-dire que quand on a un nouveau-né, par exemple, avec une grosse dermatite atopique, on va surtout dire aux parents, surtout, vous n'utilisez pas des produits, des crèmes qui contiennent de l'huile d'amande douce, de l'huile de sésame, de l'huile de macadamia, des protéines alimentaires. Pourquoi ? Parce qu'on a pu savoir, comprendre que à l'époque du diagnostic de l'allergie à l'arachide, donc il y a une trentaine d'années, le facteur principal d'allergie alimentaire à l'arachide, c'était l'application sur la peau des bébés atopiques de crème qui contenait de l'huile d'arachide. Donc c'est-à-dire, on appliquait des aliments sur la peau, ce qui n'avait pas lieu d'être le cas, et on a déclenché des allergies alimentaires. Donc je dirais, si je veux être un petit peu, si je veux un peu forcer le trait, je dis souvent à mes parents de bébés allergiques, il vaut mieux mettre du chimique que du naturel. Voilà.
Ah ouais.
Donc ça, c'est une chose. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut avoir des allergies de contact avec des produits chimiques, entre guillemets, c'est-à-dire les conservateurs qu'on peut mettre dans les crèmes, les parfums, certains produits rincés, etc. Donc ça, c'est bien connu. Mais finalement, ça ne pose pas tant de problèmes que ça. C'est plutôt la nature, paradoxalement, qui nous pose des problèmes.
On fait partie de la nature, donc...
C'est ça.
Ah ouais. Et les pollens, des choses comme ça, donc ça c'est plutôt dans l'âge adulte ou c'est aussi
alors, l'évolution, alors c'est ce qui est un petit peu difficile pour les familles, c'est que la maladie, ce qu'on appelle la maladie atopique, qui est un sous-groupe des maladies allergiques dont on parle depuis le début de notre entretien, c'est une maladie qui va évoluer. C'est-à-dire que, allez, si on veut un petit peu... faire le scénario de la vie d'un bébé allergique qui va naître, il a une dermatite atopique, il est allergique au lait, au blé, à l'œuf. Il va grandir, il va guérir naturellement pour la plupart. On va peut-être un peu les aider, nous, avec nos protocoles d'immunothérapie. Mais bon, en gros, ils grandissent. Entre 3 et 4 ans apparaissent les allergies aux fruits à coque, si on n'a pas introduit plus tôt. Et puis vers 5, 6, 7 ans apparaissent les allergies respiratoires. Donc finalement, chez beaucoup d'enfants, vous vous retrouvez avec le packaging complet.
Voilà, qui n'ont pas juste une allergie, mais où c'est complet. Quoi.
Mais on a aussi des patients qui vont développer une allergie au pollen, un bête rhume des foins, à 30 ou 40 ans. Ouais. Et ça, c'est une des réponses qu'on n'a pas. Et c'est vraiment quelque chose, une thématique qui nous intéresse beaucoup et sur laquelle on voudrait vraiment travailler, notamment avec le LIH, mais bon, on manque de moyens malheureusement, c'est qu'est-ce qui fait qu'un enfant prédisposé dans les premiers mois de vie, donc prédisposé par sa génétique, qu'est-ce qui va faire qu'il va basculer sur une allergie grave, polyallergie alimentaire, parce que faut quand même comprendre que on a beaucoup de patients qui sont allergiques au lait, au blé, à l'œuf, aux fruits à coque, à l'arachide, aux légumineuses, aux poissons. Vous imaginez peu ce que c'est que la vie, vous voyez. On n'est pas en train de parler d'une petite allergie
bien
de rien du tout. Le sésame aussi, dont on n'a pas parlé. Et je peux vous garantir que la vie est très compliquée. Alors pourquoi on a des enfants prédisposés, donc deux parents allergiques, des frères et sœurs allergiques, donc génétique pas bonne? Pourquoi ils vont faire ça? Et pourquoi il y en a d'autres ? Ils vont simplement faire une allergie au pollen de graminée à 40 ans avec le nez qui coulotte. Ouais. Et bien ça, on ne sait pas. Ouais. Et ça, on aimerait vraiment comprendre ce qui se passe dans l'environnement. Pourquoi ? Ben pour faire de la prévention. Et tant qu'on n'aura pas cette réponse, eh ben on va faire de la prévention. Donc nous, on fait de la prévention. Moi, je fais de la prévention sur l'arachide et les fruits à coque chez tous mes enfants qui ont un risque génétique. En me disant, eh ben, tant pis, il y en a peut-être pour lesquels ce n'était pas utile. Mais si je peux éviter quelques allergies aux fruits à coque chez des enfants, eh ben, faisons-le. Et souvent, les parents adhèrent très, très bien. Mais tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe et on ne comprend pas ce qui se passe, on va faire la prévention adaptée complète.
Wow. Et donc, si on a ces allergies multiples, vous avez dit avant, voilà, il faut aussi donc avoir avec ça une piqûre d'adrénaline. Qu'est-ce qui se passe justement avec des enfants? Parce que les enfants sont à l'école avec leurs amis, qui leur donnent peut-être un bisque, enfin je sais pas, qui leur donnent quelque chose. Ou alors ils sont en contact, c'est quand même plus compliqué. Un adulte, bon déjà c'est assez compliqué comme ça, avec ce que vous avez dit, de se dire ok ça je peux pas manger, je peux pas avoir le contact. Mais pour un enfant, comment ça se passe?
Alors je vous laisse imaginer, parce que je pense que vous avez bien compris la problématique, je vous laisse imaginer ce que ça représente pour des parents qui ont un enfant polyallergique de le laisser à l'école. De le laisser à l'école le matin, de savoir qu'il va manger au foyer midi et qu'il va le récupérer le soir en le laissant dans les mains de personnes généralement de très bonne volonté,
mais
qui n'ont pas forcément la formation adaptée. Ouais. Donc pour les parents, c'est un sacré challenge. Hein. De mettre ses enfants à l'école, je peux vous dire que c'est une vraie source de stress. Eh bien, alors, il y a deux choses à faire. C'est gérer le régime d'éviction. Heureusement, on a une législation européenne sur l'étiquetage qui nous aide quand même beaucoup, même si elle est perfectible. Et deuxièmement, effectivement, c'est la trousse d'urgence. C'est-à-dire que les enfants ont des protocoles écrits sur la gestion de la réaction allergique, où sont déclinés tous les symptômes, et en cas de symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire? Et effectivement, le traitement de la réaction allergique grave, il n'y en a qu'un. C'est l'adrénaline auto-injectable, c'est-à-dire ces stylos d'adrénaline qui vont traiter la réaction allergique sévère.
C'est incroyable, oui. Et donc, il faut avoir ça avec soi
En permanence, partout, quand on va à la piscine, quand on va en sortie scolaire, quand on est à l'école, quand on est aux activités sportives. C'est une chose toute bête, mais l'enfant, il va prendre le bus après le goûter à l'école, et ben, c'est là où il peut faire une réaction allergique. Donc, il faut avoir la trousse, mais il faut aussi que les gens autour soient formés et sachent l'utiliser et sachent réagir. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour sécuriser le quotidien des enfants.
Donc là, vous faites le dépistage et après, justement, aussi la gestion, parce que c'est ça. Donc, une fois qu'on a trouvé l'allergène ou les allergènes, il faut voir comment se passe la vie de tous les jours.
Donc, en fait, les enfants sont éduqués. C'est comme une maladie chronique. L'allergie alimentaire, c'est comme un diabète, c'est comme une épilepsie. C'est pas différent. C'est-à-dire que ils ont des consultations diététiques où on essaye de leur expliquer comment il faut gérer les évictions. Il y a des évictions qui sont plus simples à réaliser que d'autres, parce que une fois de plus, la législation elle n'est pas parfaite. Et donc on a parfois des allergènes qui ne sont pas faciles à identifier. Et puis ils sont en éducation à la trousse d'urgence ou avec nos infirmières et on leur explique comment gérer les réactions allergiques.
À partir de quel âge ils peuvent comprendre?
Alors, les parents comprennent très vite. Donc, souvent, on se repose sur les parents. Mais si on considère l'enfant, il peut comprendre un peu ce qui se passe au niveau de la réaction allergique vers 3-4 ans, surtout s'il l'a expérimenté. Mais la gestion, moi, je fais souvent la transition entre le primaire et le secondaire. C'est-à-dire, l'année de 6e, c'est vraiment l'année où les parents vont lâcher un peu et les enfants vont essayer de prendre la main sur leur allergie. Alors, pas forcément en autonomie complète, mais il va falloir qu'ils sachent se débrouiller pour pouvoir se nourrir le midi à la cantine au lycée, et puis pour pouvoir alerter les personnes responsables s'il y a une réaction allergique. Quand on va manger dehors, donc ils ont leur trousse d'urgence avec eux, il faut qu'ils s'autonomisent petit à petit.
Donc là, on parle vraiment d'allergie. Après, ce qu'on entend pour les adultes, souvent, les intolérances. Qu'est-ce que c'est la différence? Quelle est la différence entre une intolérance et une allergie? Parce que les gens ont tendance à dire, je suis allergique à la lactose, je peux plus boire de lait. Je parle de gens qui, enfin, trentaine, quarantaine. Je suis allergique au gluten. C'est devenu quelque chose aussi. C'est une intolérance et c'est pas une allergie. Enfin, quelle est la différence?
Alors, le mot intolérance, c'est vraiment le mot, je crois, que je déteste le plus dans mon métier. Parce que généralement, on met sous le mot intolérance tout ce qui nous arrange. Mmh. Que ce soit d'ailleurs les patients ou les médecins. Quand on ne sait pas quoi dire aux gens, on leur dit « vous êtes intolérant ». Bon, je caricature mais l'idée, c'est de bien comprendre les choses. En médecine, il y a deux formes d'intolérance. C'est l'intolérance au gluten, qui est la maladie cœliaque, qui est une maladie immunitaire qui répond à un autre mécanisme, une maladie cœliaque. Vous gardez ça toute votre vie. Vous devez faire une éviction du gluten, vous avez des troubles digestifs. Et l'intolérance au lactose. L'intolérance au lactose, c'est simplement un déficit enzymatique, c'est-à-dire qu'on manque d'une enzyme qui s'appelle la lactase, qui va nous empêcher de bien digérer le lait. Et là encore, on est sur des symptômes digestifs. Donc ça, c'est des termes médicaux. Mm-hmm. L'intolérance à la tomate, à je ne sais pas trop quoi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais. On peut être allergique, mais intolérance, ça ne veut rien dire. Mm-hmm. Vous me parliez du gluten. Alors, pour le gluten, c'est vrai que c'est... Le lactose, le gluten, c'est la maladie à la mode. Hein. C'est clair que... voilà.
Bah, les produits aussi qui vont avec. On a des,
mais bien
on a...
sûr, ah bah, il y a tout un business. Oui. Il y a tout un business. Oui, mais ce que vous devez comprendre, c'est que pour nos enfants, ça peut être très dangereux parce que le sans gluten, ça veut dire qu'on met des légumineuses dedans et que les enfants peuvent être très allergiques, notamment au soja. Et que pour le lactose, on brouille le message parce que nous, nos enfants, ils ne sont pas intolérants au lactose. Ils sont allergiques aux protéines de lait de vache. Et donc, s'ils consomment des produits sans lactose avec des protéines de lait de vache, ça peut très mal se passer. Bon, soit, peu importe. Mais surtout, donc, pour le gluten, chez l'adulte, il y a trois pathologies. Donc, il y a la maladie cœliaque qui se diagnostique, qui se suspecte avec une prise de sang se diagnostique avec une gastroscopie, où finalement, on va voir que les petites, même les grandes villosités qu'on a sur le duodénum, ben, ont complètement disparu. On fait des biopsies, le diagnostic est relativement simple, on va dire. Donc ça, c'est la maladie cœliaque. Deuxièmement, il y a les allergies au gluten, hein, dont on parlait. C'est plutôt des maladies de l'enfant. On a encore parfois des adultes qui sont allergiques au gluten, véritablement. Donc ça, l'allergologue est tout à fait capable de faire le diagnostic et les tests sont fiables. Et il y a une troisième forme qu'on décrit qui s'appelle l'intolérance au gluten non cœliaque, qui est une espèce d'entité. Vous savez, en médecine, quand on commence à mettre des termes que personne ne comprend trop bien, etc., c'est qu'en fait, on a une suspicion clinique, mais qu'on n'est pas capable de savoir d'où ça vient exactement. Mmh. Alors, on sait maintenant que cette intolérance au gluten non cœliaque, c'est une vraie entité. C'est-à-dire, les gens qui ont mal au ventre, qui ont des douleurs abdominales à cause du gluten, c'est une réalité. C'est pas dans la tête des femmes qui sont des hystériques ou je ne sais quoi. C'est une réalité. Pourquoi ? Parce que on mange maintenant des produits qui sont modifiés. Les boulangers ont des farines qui doivent pousser vite, cuire bien. Le pain doit se conserver longtemps. Et donc, on a un blé qui est modifié. Et le blé est moins bien toléré qu'avant. Et on sait très bien que si nos patients, on les fait repasser sur des farines ancestrales, notamment de l'épeautre, et qui consomment des levains naturels, la tolérance digestive est bien meilleure. On mange trop de gluten, et on mange trop de gluten mal, qui est trop travaillé. Regardez par exemple les pains dans les supermarchés. Déjà, vous avez 20, 30 ingrédients pour un pain, et souvent c'est enrichi en gluten. Le gluten, c'est une farine. Si vous mettez de l'eau dans du gluten, ça fait un gros chewing-gum tout pâteux. Vous imaginez bien ce que ça peut donner au niveau digestif. Donc ça, c'est une réalité. Le gluten, maintenant, le blé qu'on mange est moins bien toléré au niveau digestif. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas en manger.
C'est un tout, donc c'est vraiment aussi notre façon de vivre, notre façon de consommer, notre façon d'introduire les aliments chez les enfants. Et puis là aussi, donc si c'est que du pain, c'est peut-être que
basique, sur ces pathologies-là. Un pain ancestral, comme on ne sait plus le faire, il sera bien toléré.
Oui, on a fait déjà des podcasts aussi sur le thème de la nutrition, donc ça va de pair, au fait. Donc les allergies viennent avec ça, donc c'est pas... Donc si vous étiez maintenant posté dans un autre pays qui n'est peut-être pas du tout développé, vous auriez moins de travail ?
Probablement. Probablement, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a certains pays où c'est sous-diagnostiqué. C'est-à-dire que après on a des allergies suivant les modes de consommation, suivant les consommations alimentaires. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait de l'allergie à la cacahuète. d'où vient cette histoire de prévention de l'allergie à la cacahuète? C'est que dans les pays anglais, on mettait les femmes, femmes et les enfants sans fruits à coque jusqu'à l'âge de 5 ans, explosion de l'allergie à l'arachide. En Israël, ils n'ont pas d'allergie à l'arachide.
Oui,
donc on s'est dit, mais pourquoi? Parce que les bébés boulottent des trucs, des snacks à la cacahuète dès leur plus jeune âge. Donc il y a aussi des habitudes de vie, des consommations différentes. Mais oui, probablement dans des pays en voie de développement, on n'a pas ces problématiques-là, ou beaucoup moins.
Et aussi, si on regarde un peu dans le passé, puisque c'est une évolution aussi. Donc ici aussi, il y a 50 ans, c'était encore une situation très différente.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Une dernière question, Madame Morel, si je peux me permettre. Vous avez l'air vraiment passionnée. Qu'est-ce qui vous a fait aller vers la direction des allergies, si je peux demander?
Eh bien, ça a été un petit peu le hasard. Je suis médecin généraliste au départ et je voulais être médecin de famille dans un petit village.
Ah oui,
et
c'est
puis,
autre chose.
Je me suis rendu compte que la médecine générale était tellement vaste. Mon tempérament étant de devoir maîtriser les choses, je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Ça va être une trop grosse source de stress pour moi. Et je suis un peu tombée dans l'allergologie par hasard. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme exceptionnelle qui s'appelle le professeur Monneret Vautrin, qui était un professeur de médecine interne à Nancy, qui était une des spécialistes mondiales de l'allergie alimentaire. Donc, il y a une vingtaine d'années, donc j'ai commencé, et elle m'a fait aimer ce métier, elle m'a fait découvrir sa passion et partager sa passion pour la prise en charge des allergies alimentaires, parce que malheureusement, je dois avouer que c'est un combat quotidien pour moi d'essayer de faire comprendre que les allergies c'est grave et que les enfants méritent qu'on développe des moyens, notamment au niveau politique, pour aider ces enfants qui ne le sont pas suffisamment.
Wow. Oui, donc c'est vraiment un engagement qui va beaucoup plus loin.
Oui, je crois que ces enfants méritent qu'on leur accorde autant d'attention que les diabétiques et les épileptiques, par exemple, parce qu'ils sont réellement malades et leur vie est réellement difficile et leur vie est dangereuse. Il ne faut pas oublier que les allergies, ça peut faire mourir.
Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite encore une bonne continuation.
Je vous remercie.
Voilà, et peut-être encore plus d'allergologues au Luxembourg.
Ce serait bien.
Merci. En deux mois d'un, schönen Tag noch und be well. Merci für die Nullausstrecken auf dieser Platz. So und schon auch merci der CMCM, die diesen Podcast unterstützt. Die können also auch Feedback geben oder Informationen aufrufen auf bewell@mosquito.lu oder auf die sozialen Netzwerke.